7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, nous croisons quelques règles de savoir-vivre et de politesse. Se saluer, manger, offrir, remercier, se vêtir. Toutes les cultures ont des règles de bienséance. Et les stages pour apprendre à se comporter en société ont énormément de succès. Alors pourquoi faire tout un plat des bonnes manières? La politesse peut-elle apporter du respect, de la confiance et accessoirement aider à travailler loin de son pays, loin de sa culture? Ou bien tout cela n'est qu'hypocrisie? Calculer. Appelez-nous si vous avez déjà commis des erreurs, des gaffes. Dites-nous aussi, les voisins, comment vous percevez l'ignorance des étrangers chez vous, car forcément il y en a. Vous pouvez nous téléphoner surtout dès maintenant, n'attendez pas la fin de l'émission. 33 1 84 22 71 71, c'est notre numéro de téléphone, également le serveur WhatsApp sur lequel vous pouvez aussi poster des messages écrits. Un ami à Dakar me disait il n'y a pas longtemps « Arrête de marcher comme une européenne. Comprendre marche rapide, façon busy woman, pas classe du tout. Alors que traîner ses sandales en se déhanchant à la Saint-Louisienne et dire au monde « J'ai la vie devant moi », ça c'est royal. » Voilà comment chaque code peut signifier tout et son contraire. Voilà pourquoi il faut se renseigner. Et c'est ce qu'on va faire avec nos invités. Geneviève Dangenstein, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes anthropologue de formation. Vous avez fondé Business Etiquette Paris, une école de savoir-vivre. Alors essentiellement sur le savoir-vivre à la française. Et vous publiez...
C'est quand même aussi par rapport à d'autres cultures aussi.
Bien sûr. Enfin, on revient chez vous parce qu'on veut comprendre comment il faut se comporter en France. Et vous publiez Le savoir-vivre est un jeu. Philippe Pierre, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes sociologue, co-directeur du Master de Management Interculturel de l'Université Paris Dauphine. Évidemment, là, on vient vous voir pour du business.
Exactement.
Nous serons également en ligne avec Frédéric Ojardias, notre correspondant en Corée du Sud, qui nous explique pourquoi il ne faut pas se vexer quand un Coréen vous demande tout de suite votre date de naissance alors qu'il vous rencontre pour la première fois. Et en fin d'émission, un nouveau rendez-vous mensuel avec le journal Marie-Claire, reportage sur les plages du Sinaï en Égypte, si près des combats contre l'armée islamique, nous racontera Adrien Gosset-Bernem. Mais tout de suite, retour au savoir-vivre et si possible, ensemble.
Messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. D'ailleurs, il ne faut pas rester debout, asseyez-vous, mettez-vous à l'aise.
Merci, monsieur, c'est très gentil. C'est une leçon de savoir-vivre.
Bonjour, c'est moi, Boubi. Je dis toujours merci ou s'il te plaît.
Mathieu, ton assiette, s'il te plaît.
Hors de mon chemin, répugnante marmaille.
Hé, si j'étais aussi riche que vous, je m'offrirais des cours de politesse.
Nous ne pouvons pas priver plus longtemps Maurice d'une éducation qui aurait dû être la sienne.
Je vais t'apprendre ce qu'est la politesse.
Ça lui fera le plus grand bien, ça.
Tipi, viens, laisse, excuse même pas, il me dépasse. T'es poli ou t'es pas poli, toi?
Non, parce que elle est moche. Elle est gentille, mais elle est moche.
C'est pas la politesse qui t'étouffe, toi.
C'est alors que toi, t'es moche, puis t'es con. Tu vois, enfin, vous êtes con, quoi. T'es très con, tu le dis gentiment.
Mais qu'est-ce qu'il dit? Mais je comprends rien.
Excuse-toi. Excuse-toi tout de suite.
Voilà, on sera très poli dans cette émission, nous, aujourd'hui. Je vous lis quelques messages postés sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, Geneviève Dangenstein et Philippe Pierre, vous avez le droit de réagir. On est en direct. Afi est en République démocratique du Congo. Elle nous dit qu'il y a un adage qui dit la chose suivante. La première rencontre est toujours la bonne. Les petits gestes que les gens négligent sont en réalité des signes qui attestent de l'éducation ou des bonnes manières que peut avoir la personne. Chaque personne, lorsqu'elle parle, a toujours ce coup d'œil en observant la gestuelle de son interlocuteur, et chez moi, tout geste compte et joue un rôle essentiel dans mes différentes relations. Annie Vétalou-Boumbashi, dans le sud du même pays. Chez moi, la salutation est une porte qui ouvre une conversation, comme c'est bien dit, moi, je trouve. Donc, tu ne peux pas arriver dans un endroit sans saluer les personnes qui s'y trouvent, sinon les gens ne te donneront jamais ce que tu cherches. Et puis il y a un voisin amer au Cameroun qui constate la chose suivante. Généralement autour de moi, la politesse que j'offre n'est pas toujours appréciée à sa juste valeur. Dans le monde où nous vivons, nombreux sont ceux qui luttent uniquement pour leur seul et propre intérêt. Est-ce que la confiance que nous faisons aux autres en vaut la peine? Qu'est-ce que ça vous inspire, Geneviève Dangenstein?
La confiance doit être effectivement la première... le premier sentiment que l'on doit susciter est évidemment le sourire, tout ce qui est...
Il faut tant que cela surveiller ses faits et gestes.
Non, il faut être dans l'empathie et essayer de voir à qui, comment plaire, mais pas d'une façon artificielle. Il faut essayer d'être avenant, déjà un sourire, ce qui n'est pas du tout commun dans toutes les cultures. Par exemple, je me souviens qu'en Russie, sourire pour la première fois, et c'est ce qui se passe dans les hôtels, c'est vraiment une façon d'être montré qu'on est complètement idiot, c'est-à-dire qu'on n'a pas à sourire à tout le monde, alors que dans d'autres cultures, au contraire, le sourire, c'est la chose, ouais, la première à faire.
Notamment en Asie.
Voilà, c'est ça.
Oui, moi je suis sensible à ce que Geneviève exprime. Une de vos auditrices a parlé, c'est très joli, d'art de la conversation. Mmh. Je crois, moi, que quand on s'interroge sur notre thème de la politesse, très tôt, très vite arrive la question de l'intelligence de l'autre. Comment on fuit un personnage et comment on découvre une personne ?
Alors justement, en effet, Anif disait « Chez moi, la salutation est une porte qui ouvre une conversation ». Écoutez ce message posté par un voisin sur notre serveur WhatsApp.
Bonjour RFI, bonjour aux voisins, aux voisines. Moi, c'est Kone Ibrahima, depuis la Côte d'Ivoire. Moi, je travaille dans une petite boîte. Voilà, certaines personnes qui viennent comme ça, ils viennent me demander « Est-elle ? Il est là ? Il est parti où ?» Sans vous dire même un bonjour. Donc, je ne dis rien, je ne lui réponds pas, je ne branche pas. À chaque fois, j'essaie d'expliquer. J'ai dit, moi, en tant qu'homme, quand tu viens, la première des choses d'abord, c'est la salutation. Les gens sont occupés par leurs propres problèmes, mais en oubliant, quand on a besoin d'un service chez quelqu'un, la première des choses d'abord, c'est comme si vous voulez rentrer dans la maison de quelqu'un, il faut frapper la porte. Ne serait-ce que lui dire un petit bonjour. Et quand tu ne me salues pas, moi, de la manière que tu me vois, c'est comme un morceau de bois. Et merci et bonne émission à tous. Et je salue tous les voisins et les voisines.
7 milliards de voisins. Parce que nous sommes tous des voisins.
Voilà, moi j'aime bien sa formule. Hein. Si on ne me salue pas, je suis comme un morceau de bois.
C'est magnifique parce que ça me plonge dans mes cours quand j'ai la chance d'intervenir en Afrique. La première chose qui me marque, c'est le temps de la relation. Mes étudiants sont parfois venus m'accueillir ou nous accueillir quand j'y vais avec des amis, mais à l'aéroport. Et puis ils nous emmènent en famille chez la major ou le major de promotion et on croise le regard du grand-père et on converse. Et ensuite, on nous amène à l'hôtel. Alors ça, je crois qu'on est au cœur du sujet. Hein. Voilà. Moi, je vais parfois trop vite en besogne.
Mais oui, surtout en Afrique, en principe en Afrique, si on a quelque chose à dire d'important, il faut passer, on dit toujours 14 minutes aux salutations de toute la famille. Et ensuite, la dernière chose se passe, l'importante est dite à la fin, oui, en une minute. Oui. Donc vraiment, ça veut dire qu'il y a un retournement de valeurs qui est quand même grave alors.
Mais alors, dans le fond, aujourd'hui, dans ce monde où c'est l'efficacité qui prévaut, à quoi servent encore la politesse et le savoir-vivre, finalement, Philippe Pierre ?
Mais je crois que c'est une apparence qu'il faut dépasser, parce que ce dont il est question, c'est que nous sommes influencés dès le plus jeune âge par des traditions familiales, par un rapport à la nature, par cette idée que la culture, c'est aussi une question de survie. Et l'important, c'est de ne pas rester engoncé dans ses habitudes. L'important, c'est aussi de se laisser questionner. Quand je suis comme ça, en enseignant en Afrique, j'ai parfois envie d'aller trop vite, de marcher vite, comme vous le disiez en introduction, de marcher vite. Et ça questionne chez moi un rapport au temps, qu'on pourrait appeler en anthropologie la chronémie. Moi, je me lève le matin, si je me laisse aller à la personne que je suis, je vois ma journée comme une succession de tâches à accomplir. Je suis monsieur to-do list. Ça, je pense que...
C'est ce que le monde du travail nous commande aujourd'hui.
Il me semble.
À nous tous.
Il me semble. Ouais. Instantanéité, immédiateté, rendre compte dans des tableaux de bord. Et donc, c'est un combat, je pense, que nous avons à mener pour réinstiller de l'humain. Et tout à l'heure, ce que notre auditeur disait, c'est le temps de la relation. Quand on me demande « ça va la famille, tu as fait bon voyage », ça percute aussi une autre dimension, c'est la sphère de l'intime.
Hein. Oui, tout à fait. Et cette sphère de l'intime, d'ailleurs, elle ne se définit pas de la même façon selon les cultures. Hein. Geneviève Dangenstein, vous formez des gens de toute nationalité à un savoir-vivre français. Qu'est-ce qu'on apprend chez vous ? Qu'est-ce qu'on vient chercher ?
Alors évidemment, c'est toujours un mythe, le savoir-vivre français, puisque, enfin, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais c'est vrai qu'avec Louis XIV, la littérature courtoise, Louis XIV, et ensuite toute cette émancipation française dans le monde, c'est resté une valeur importante, parce que, en fait, ça draine deux visions contradictoires, et c'est ça qui est un peu le miracle de la politesse française, c'est que c'est une politesse aristocratique, mais en même temps égalitaire, puisqu'elle a été, le vecteur de toute la vision des déclarations des droits de l'homme. Et donc ça, c'est très important. Et ce qui, alors une chose que j'explique aussi dans mes cours, c'est l'importance de la femme, qui a été un petit peu le pivot à l'origine de cette politesse, puisque les hommes et les femmes vivaient évidemment dans les milieux aristocratiques, ils vivaient ensemble, et donc ça a obligé les hommes à avoir un comportement qui a été excessivement respectueux pour les femmes, mais qui s'est aussi évidemment transmis dans toute la société. Et c'est très amusant de voir la façon dont réagissent les femmes chinoises, russes, africaines, pour quand ils viennent. Elles sont fascinées quand je leur dis cette importance. Alors même si évidemment dans la rue on s'en aperçoit pas toujours, mais dans l'idéal, finalement le rôle de la femme a un rôle structurel dans la politesse.
Et qu'est-ce qui surprend dans ce que vous enseignez aujourd'hui, parce que j'imagine que les conseils que vous donnez aujourd'hui sont adaptés à notre époque?
Ah ben absolument, mais plus que jamais.
Qu'est-ce qui surprend les étrangers qui viennent chez vous?
Et puis, ce qui surprend, c'est justement, les femmes sont un petit peu, ne sont pas habituées à avoir un tel comportement. Et on s'aperçoit au fond que le fait de vivre ensemble, les hommes et les femmes, oblige les uns et les autres à avoir un comportement très, très civil et très. Et c'est ça qui les fascine. C'est ça qui fascine aussi. Et la notion aussi d'égalité.
Alors, vous le disiez, il faut évidemment faire attention à ses faits et gestes, respecter l'autre, mais il y a quand même des attitudes du corps qui sont, chez nous tous, complètement intériorisées. Le fait de toucher l'autre ou pas, de mettre une main sur l'épaule en signe de sympathie, d'être très proche, par exemple, de son voisin dans une file d'attente, ou au contraire de garder une large distance, on n'y fait pas attention. Parce que depuis l'enfance, on sait ce qui est possible ou pas dans notre culture. Et ailleurs, on ne se rend pas forcément bien compte qu'il y a une grosse différence.
Il y a des différences que l'anthropologue Edward Hall a appelées la proxémie. Mm. La proxémie, c'est l'analyse culturelle de la distance physique. Mm. Et donc, quand on serre la main, quand on fait des bises, c'est différent selon les régions. Quand un homme vous prend la main au Maghreb et par confiance, par empathie, vous la tient longtemps. Longtemps pour moi, moi qui suis d'origine française, eh bien, ça va interroger, vous le dites Emmanuel, ça va interroger mes propres règles de fonctionnement. L'essentiel, c'est de ne pas juger trop vite. Ça, j'attache beaucoup d'importance à ça.
Il y a des cultures où il ne faut pas être trop proche réellement de la personne avec qui on parle.
Ah bah oui, c'est ce que l'anthropologue va faire comme distinction entre la zone de l'intime, la zone personnelle, la zone sociale, la femme et l'homme de la rue.
Ouais. Il y a une logique d'action. À quoi vous pensez là, par exemple, à quel pays vous pensez?
Je peux penser, par exemple, à mes étudiants. Certains de mes étudiants originaires d'Afrique subsaharienne ne me regardent pas dans les yeux, ne me fixent pas dans les yeux. Mais parce que tout petit, en fait, ils ont appris à
voir. Parce que vous êtes beaucoup plus âgé qu'eux.
Je suis plus âgé, exactement. Et moi, l'âge dans mon environnement peut être parfois un problème. On nous baptise senior à 45 ans. Étrange pays. On est junior, on est senior, puis après, qu'est-ce qu'on est? Et là, je fais face à des personnes pour qui, en fait, la sagesse de l'âge, ça compte. Et ça, je pense que c'est complémentaire de ce que Geneviève exprime dans le rapport homme-femme. Et puis là, on est vraiment sur une autre dimension essentielle, très importante. L'idée que culturellement, nous nous faisons de l'âge et fixer le regard plus ou moins longtemps, eh bien, tout ça, c'est lié. Et mon meilleur ami est rwandais, il s'appelle Evald Mutabazi. Et Evald, en fait, très tôt, très jeune, m'avait appelé le vieux. J'ai eu des cheveux blancs assez rapidement. Pour lui, c'était un très beau compliment. Ouais. Il a fallu que je comprenne.
En France, on enseignera à des enfants à regarder l'adulte lorsqu'il salue l'adulte.
Tout
C'est
à fait.
Exactement l'inverse.
Lève donc les yeux, je te parle.
Oui. En signe de respect. Donc, le but est le même, mais le moyen pour y parvenir n'est pas le même.
Tout à fait. Ah. Les chemins sont différents. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est une belle intelligence interculturelle.
C'est ça. Et c'est ce que j'apprends effectivement à mes élèves. Parce que des gens qui sont dans le monde du travail, effectivement, un Africain qui ne va pas regarder quelqu'un dans les yeux, ça va... tout de suite, les gens ne vont pas avoir confiance en lui, alors que pour cette personne, ça sera justement une marque de respect. Donc il faut vraiment faire très attention.
Le repas, est-ce que c'est à votre sens que l'on soit d'ailleurs dans une optique de compréhension, de management interculturel ou tout simplement de bonne manière dans le monde, est-ce que c'est le moment où il y a le plus de différences d'une culture à l'autre ou pas, Geneviève d'Angelstein ?
Oui, évidemment, parce qu'il y a, les cultures traditionnelles, évidemment, il y a un grand plat commun et chacun va va puiser dans ce plat commun, alors que nous, depuis la Renaissance, on a le plat individuel. Et donc, il y a tout un comportement qui va changer. Mais c'est pas seulement d'une culture à l'autre, mais aussi c'est d'une classe sociale à l'autre.
Et d'ailleurs, si un auditeur, soit dit en passant, pouvait nous appeler pour nous expliquer exactement quels sont les codes quand on mange dans un plat unique, parce que forcément, si on est tous dans le même plat, j'imagine qu'il ne faut pas avoir l'air trop glouton, de trop se précipiter sur le plat, de déborder sur la part de son voisin. Je ne sais pas, j'aimerais bien que des auditeurs puissent nous appeler et nous renseigner sur cette question-là. C'est le repas en affaires, c'est le moment clé pour travailler, pour établir des relations de confiance. Donc c'est aussi là où le faux pas peut...
peut émerger. Alors moi je dis souvent en fait, ne faites pas confiance à ce que vous ressentez quand vous le ressentez, quand vous démarrez un repas ou quand vous démarrez un entretien de recrutement.
Ah bon ?
Ouais, c'est contre-intuitif, hein. Il faut se méfier de ce qu'on ressent tout de suite quand on le ressent. Les 5 ou 10 premières minutes, en fait, il faut se méfier parce qu'on a tendance à confirmer, c'est-à-dire à aller chercher chez quelqu'un des choses qui nous sont habituelles, qui nous sont communes, et à ne pas explorer.
À quoi vous pensez là,
si quelqu'un rentre dans mon bureau et très tôt, très vite, son apparence physique, elle me donne confiance. Son visage, le fait de ne pas avoir de tatouage ou de piercing, par exemple, pour moi, c'est signe de confiance. Mais j'ai parfois tort. Mm. Aujourd'hui, vous avez une large partie de notre jeunesse qui peut être porteuse d'un tatouage, visible ou invisible.
Mais on était au repas, là.
Ouais. Et quand on regarde quelqu'un, en fait, manger, Geneviève insiste sur un point, il y a toujours, en fait, aussi un ancrage social. Donc ne pas aller trop vite, en fait, mettre de côté un candidat ou quelqu'un qui nous parle, parce qu'on va chercher plutôt la confirmation. On ne va pas vouloir explorer. Et moi, je dis souvent, si tu n'as pas changé d'avis sur quelqu'un au cours d'un repas ou au cours d'un entretien de recrutement, tu n'as pas fait d'entretien de recrutement. Tu as simplement confirmé, en fait, des choses qui te sont communes ou qui te sont habituelles.
Est-ce qu'il y a une Bible du savoir-vivre aujourd'hui qui continue de faire référence malgré toutes les évolutions qui vont tellement vite ou pas ?
Geneviève d'Angelstein. Vous pensez à la baronne Staff, effectivement, peut-être. Non, il n'y a pas de Bible parce que les choses sont beaucoup trop subtiles et mettre des règles strictes, ce serait contre tout ce qui est lié à la politesse.
Mais en tout cas, la politesse est un vrai sujet depuis des siècles et des siècles, depuis l'Antiquité.
Avant, puisque je pense que depuis que l'homme existe, il est obligé de vivre avec les autres. La politesse, c'est un ensemble de rites pacificateurs.
On parlait du repas, le traité de civilité puérile d'Erasme au XVIe siècle.
Oui.
Alors, traité de civilité puérile, ça veut dire en fait le traité de civilité pour les enfants. Il est expliqué très simplement. Au moment des repas, et pas que au moment des repas, d'ailleurs, il y a tout le temps des allusions aux animaux. On ne ronge pas les os avec ses dents comme un chien. On les dépouille à l'aide du couteau. Lécher à coups de langue le sucre ou toute autre friandise. Rester attaché à l'assiette ou au plat. Là, c'est agir en chat et non en homme. On voit bien qu'il y a de tout temps eu la crainte des hommes de trop ressembler aux animaux, finalement.
Oui, c'est l'animalité qui évidemment montre justement, je trouve que c'est tellement parlant, parce qu'il faut se dire, l'homme vit en société, ses codes sont absolument nécessaires et fondamentaux pour qu'une société existe.
Ouais. Alors, on pourrait se poser la question, alors on parle tellement de la protection et du respect des animaux, si la tendance ne pourrait pas s'inverser d'ailleurs. Mais bon, vous nous appelez au 33 1 84 22 71. 71, on donne la parole à un auditeur. Laurier est en ligne avec nous de Lomé au Togo. Bonjour Laurier, soyez le bienvenu.
Bonjour madame, comment allez-vous ?
Très bien, et vous-même ?
Je vais très bien aussi, merci.
Laurier, vous êtes l'auteur d'un blog Murmure de l'esprit sur lequel vous laissez aller à vos réflexions sur le monde qui nous entoure et vous avez envie de partager des réflexions sur les bonnes manières occidentales sur le continent africain. Laurier, on vous écoute.
En effet, oui. Enfin, voyez-vous, j'avais écrit un article sur mon blog il y a cela environ 2 ans.
Oui.
Cela m'a été inspiré par le fait que je m'étais rendu à un déjeuner avec des collègues. Il y avait un kidam qui s'en sortait mal avec ses couverts.
Mmh.
Ouais, donc les gens aux alentours se sont mis à se moquer de lui, quoi.
Oui.
À le railler. C'est une chose que j'ai trouvé dommage. En ce sens que parce qu'il ne sait pas se servir de ses couverts, ils ont tout fait de le taxer de pas civilisé.
Ouais, ouais. Et vous avez dit au Standard, adopter les bonnes manières des Occidentaux, c'est comme enfiler du 40 quand on chausse du 45.
Oui, en effet, parce que c'est pas un canevas qui nous est propre. C'est vouloir entrer dans un moule qui n'est pas notre, vous voyez ?
Ah, bien sûr, qui a été imposé.
Mais en fait, le pire dans tout ça, c'est que mes semblables, mes homologues africains comme moi, c'est quand ils se moquent des gens qui s'en sortent mal avec ces manières-là, ouais, et les obligent à y rentrer.
Mais vous voulez dire, Laurier, qu'à l'heure actuelle chez vous au Togo, on peut en arriver à railler des habitudes qui sont en réalité vos habitudes culturelles
En effet, oui.
Ce qui revient à une forme d'acculturation, de renier sa propre culture, ses propres bonnes manières, son propre code.
Oui, effectivement, parce que...
À quoi vous pensez, là ?
Je pense que notamment, par exemple, prenons les invitations.
Oui.
L'invitation à déjeuner.
Oui.
On vous invite à déjeuner, on vous précise sur la carte que tenue de ville obligée.
Ah oui ?
Limite, vous n'êtes pas libre de vous habiller comme vous voulez.
Ouais, mais où est-ce qu'on lit ça ? Attendez, Laurier, je voudrais comprendre. Où est-ce qu'on lit ça, à part sur un carton d'invitation de l'ambassade de France ?
Ah, bah, non, mes collègues, quand ils m'invitent à déjeuner chez eux, pour certains déjeuners d'affaires,
ouais.
Même des rencontres entre amis, ils le disent que c'est obligé. Et si vous ne vous conformez pas à ces codes, le portier ne vous laisse pas rentrer, hein.
Ah oui, donc tenue de ville, sous-entendu tenue occidentale. Si vous venez avec une tunique made in Togo, ça ne le fait pas.
Ouais. Non, ça ne le fait pas du tout.
Ouais, ouais.
Du tout, en fait. Vous devez peut-être être vêtu de Armani, Hugo Boss, etc. etc.
Ouais.
Et on oublie les stylistes comme AK Design de chez nous, en fait.
Bien sûr.
Vous voyez ?
Mm-hmm.
C'est ce qui est dommage.
Mm-hmm. Tout à fait, oui. Philippe Pierre.
Ouais, je voudrais rebondir sur ce que Laurier exprime. Ça me marque, ça me touche. Je me souviens de séminaires que j'ai vécu dans l'industrie du pétrole il y a quelques années, où pendant la journée, nous étions tous habillés pareil. C'est-à-dire que nous avions des costumes. C'était pas Armani ou Hugo Boss, on avait moins de moyens. Mais en tout cas, on était a priori tous en sombre avec une cravate rouge. Et le soir, ça m'a beaucoup marqué. Des Nigérians, des Gabonais, des Congolais, mais aussi des Norvégiens, des Écossais, arrivaient dans des tenues qui étaient leurs tenues. Et il y avait comme ça une sorte d'alternance des codes qui m'a beaucoup marqué, qui m'avait invité à réfléchir à ça.
Qui provoque quoi d'ailleurs dans les relations quand tout d'un coup tout le monde arrive avec sa tenue ? Ça change quelque chose ?
Ah oui. Ça nous questionne mutuellement et puis d'une certaine manière, les conversations changent. Certains s'interrogeaient sur les bizarreries de la cuisine.
Ouais.
On évoquait le repas, je me souviens de foie gras frais ou d'huîtres que nous mangions et qui étaient interrogés à ce moment-là.
Ouais.
En fait, quand chacun venait avec sa tenue, c'est un peu comme si on faisait un mariage entre les racines et les ailes.
Mm-hmm.
C'est un peu comme si, d'une certaine manière, pour être libre, il ne faut pas couper une forme d'ancrage. Ouais. Ce que Laurier exprime me semble très important.
Ouais. Laurier, ça veut dire que vous avez un message pour les auditeurs qui nous écoutent ou pas, de votre point de vue, sur les bonnes manières ?
Oui, de mon point de vue, c'est-à-dire qu'il est important d'assumer notre différence, oui, de nous l'approprier, oui, et de ne pas la délaisser, oui, au profit de codes importés. Oui. Oui. Parce que la culture, loin de nous diviser, nous unit en fait. La différence nous enrichit, dit-on.
Alors j'en profite, puisque vous nous appelez que vous êtes sur le continent africain, quoique d'un pays à l'autre, j'imagine que ça peut varier, mais on parlait du plat unique. C'est une pratique qui peut être courante, y compris au Togo, on est bien d'accord, hein.
L'on parlait du quoi, pardon,
lors d'un repas, quand il y a un plat unique, oui, et un seul plat, ouais, sur la plat table, unique, pardon, oui, plat unique, oui, un seul, oui, plat sur la table et que tout le monde se sert dans le plat, d'ailleurs, soit avec les doigts, soit avec une fourchette, ça dépend parce que maintenant, tout ça, c'est un peu mélangé, hein, les différentes cultures. Quelles sont les règles de bienséance quand on est tous à piocher dans le même plat?
Les règles de bienséance dans ce genre de cas, il n'y en a pas en fait.
Non mais on ne se sert pas de l'autre côté du plat, du côté du voisin. Est-ce vous voyez, un plat est rond, alors est-ce qu'il faut établir un périmètre de sécurité pour chaque voisin?
Il y a des règles très précises en fait.
La règle veut que tu manges devant toi, que, d'accord, tu n'empiètes pas sur le territoire de l'autre. Le plat est servi en fonction... En fonction avec les garnitures et tout. Mais actuellement, c'est une pratique qui est assez délaissée et c'est dommage, vous voyez. Oui. Donc chacun mange de son côté. Voilà, cette convivialité disparaît peu à peu.
Et ça dit beaucoup de choses, effectivement, de partager un plat au sens propre du terme. Merci beaucoup, Laurier, de nous avoir appelés. Appelez-nous, bien sûr, les voisins et voisines, y compris d'ailleurs, hein, vous avez le droit de faire de l'humour si les ignorances des étrangers dans votre pays peuvent prêter à sourire. Et bien évidemment, notre numéro de téléphone, c'est le 33 1 84 22 71 71. Il y a quand même des gens qui disent qu'une société hyper codifié est une société hypocrite qui applique des règles mécaniquement. Je pense, vous savez, à ces manies américaines où on a l'enthousiasme exagéré des retrouvailles, qui quand vous expliquez quelque chose à votre interlocuteur, il vous dit que tout est fantastique, même s'il n'en pense pas un mot. On peut aussi penser ça des bonnes manières, non, Geneviève Dongenstein?
Oui, mais je ne vois pas. Effectivement, chacun, ça fait partie de. Aux États-Unis, on doit toujours être très positif. Il faut toujours être absolument positif, aller de l'avant, et ça fait partie de la politesse, effectivement. Aux États-Unis, même un enfant, donc, même s'il fait des choses inintéressante en classe, il a 3 ans, mais ça sera toujours fantastique. Et bon, on peut respecter ça aussi, puisque ça fait partie de tout, il y a toute une idéologie, une culture derrière. Mais pardon, pour en revenir
juste... On est d'accord que ça peut être parfaitement hypocrite.
Non, c'est pas de l'hypocrisie, c'est que il faut rester dans cette espèce de positivité. Or pour nous, ça nous semble hypocrite, c'est-à-dire que même en Chine, quand on n'est pas du tout content, on va sourire et on va même rire. D'ailleurs, ça provoque beaucoup de problèmes dans le monde des affaires. C'est-à-dire que ça fait partie de je ne pense pas que ce soit, on peut dire, ce que c'est hypocrite. C'est une façon de réagir.
Alors justement, dans quelques instants, on part vers la Corée du Sud avec notre correspondant Frédéric Ojardia. Ça sera juste après Savoir Vivre, Verso, chez 7 milliards de voisins.
Et ma différence. Ici l'amour est inhérent à notre itinérance. Mais la haine entre parenthèses, l'ange de la mort n'est pas rentré. Fantôme d'antan vient pour monter, dire que les deux peuvent s'apparenter. Je repars en terre. Je n'ai confiance qu'en mes liens de parenté. Je peux pas me laisser le prêt. Je témoigne de la misère du monde que les plus sombres vont célébrer. Comment veux-tu déceler? Ce système se réjouit de nourrir les décérébrés. Nos espoirs sont incinérés. J'aurais dû me dire qu'ils s'en iraient. D'une rose noire je signerais. Ainsi nos rêves me signeraient. Donc on les vit à part entière. Je n'ai pas connu pire encore. Je n'ai que ma rancœur. C'est fuite en sur le rempart en pierre. Je suis le reflet de mon époque. Je me rétracte dans ce monde opaque. Et je crie ma peine en soliloque. La peur a laissé des impacts intacts. J'empacte mes sacs. Y'a le tact et l'acte. La sagesse sous le pacte, tolle pas mon nom sur le pacte. Mais le diable joue l'acteur. Je connais le mal et ses facteurs. Je te mets le temps de l'entracte. Et je remercie mes détracteurs. Dans ma vie je suis bon mais je t'avoue que ça varie. La vérité c'est que je n'ai pas de savoir vivre. Ça m'empêche pas d'écrire des textes remplis d'avarice. Mais bon, faudrait déjà savoir ce que je vise. Si j'apprenais à faire la part des choses avant, ça serait peut-être mieux. Frère, on a beaucoup de trucs à faire avant d'être vieux. Faire
car la part des choses avant ça se répète mieux, frère. On a beaucoup de trucs à faire avant d'être vu. Dans ma vie je suis bon mais je t'avoue que ça varie. La vérité c'est que je n'ai pas de savoir vivre. Ça m'empêche pas d'écrire des textes remplis d'avarice. Mais bon, faudrait déjà savoir ce que je vise. Si j'apprenais à faire la part des choses avant ça serait peut-être mieux, frère. On a beaucoup de trucs à faire avant d'être vu. Faire la part des choses avant ça serait peut-être mieux, frère. On a beaucoup de trucs à faire avant d'être vieux.
En ce moment je dors pas, mes idées me dépriment. Toute la vie fait corda, je n'ai pas de savoir-vivre. Tous les soirs, je promets que j'arrête cette routine. J'avais juré mais je me déçois à croire que mes démons s'obstinent. À croire que j'ai vu des choses et que j'en ai vécu d'autres. Ce gosse en cours sur sa chaise qui n'arrête pas de faire des fautes. J'ai pas taffé l'orthographe mais le profond de mes textes. Je suis pornographe du phonographe qui te fait sourire en tech.
Savoir vivre, c'est Verso chez 7 milliards de voisins sur RFI. Allez, direction la Corée du Sud, puisque c'est un pays à la fois au cœur de la mondialisation, de plus en plus ouvert sur l'extérieur, mais c'est aussi un pays qui reste très codifié, où les règles de politesse sont nombreuses, et c'est notre sujet aujourd'hui. Bonjour Frédéric Ojardias.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Vous êtes le correspondant de RFI à Séoul. Frédéric, vous vivez en Corée depuis plus de 10 ans maintenant. Alors, quelles sont les règles de l'étiquette coréenne qui vous ont le plus dérouté lors de votre arrivée ?
Alors, il y a quelque chose qui surprend beaucoup, c'est le fait qu'un Coréen qui rencontre un étranger pour la première fois, eh bien, il va très vite lui demander son âge, son année exacte de naissance. En fait, c'est l'une des toutes premières questions posées. Et il ne faut surtout pas se vexer, parce qu'un Coréen a besoin d'avoir cette information pour connaître le statut de son interlocuteur et pour savoir comment se situer par rapport à lui et donc déterminer quel niveau de politesse il va utiliser quand il lui parle. En fait, la langue coréenne dispose de plusieurs niveaux de politesse qui sont des indicateurs de la hiérarchie sociale et toute la suite des échanges et de la communication dépendra donc de ces informations. Par exemple, à table, quand on est plus jeune, eh bien, il faut attendre que les plus âgés commencent à manger avant de se jeter sur les plats. Et quand on boit un verre d'alcool, eh bien, les plus jeunes doivent tourner légèrement leur buste et cacher leur verre avec leurs mains.
Mmh. Et donc ça veut dire que là aussi, c'est pendant les repas que les gestes sont les plus codifiés, Frédéric ?
Oui, alors il y a plein de règles à table. Par exemple, il ne faut jamais planter ses baguettes dans son bol de riz parce que ça évoque la nourriture offerte aux ancêtres lors des cérémonies organisées en hommage aux défunts. Et puis à table, on ne se sert jamais soi-même en alcool. La politesse requiert de remplir le verre de son voisin dès que celui-ci est vide. Et si vous ne voulez pas boire, eh bien, il suffit donc de garder votre verre plein. Et puis en dehors de la table, l'étiquette coréenne comporte de nombreuses petites règles très simples à apprendre et qui servent eh bien, tout simplement à montrer son respect envers son interlocuteur. Quand on donne une carte de visite, un cadeau ou de l'argent dans un magasin, eh bien, par exemple, il faut le faire avec les deux mains. Tendre un billet d'une seule main, c'est vraiment très impoli. On ne s'embrasse jamais en public, on ne se mouche pas en public non plus. Et puis, il faut toujours enlever ses chaussures avant d'entrer chez les gens. Les intérieurs coréens se parcourent impérativement en chaussettes. Si un jour vous voyagez en Corée, évitez donc les chaussettes avec des trous, parce qu'être habillé de façon trop négligée, c'est aussi manquer de respect envers son interlocuteur.
Et comment réagissent les Coréens face aux étrangers qui, forcément, doivent multiplier les impairs sans même s'en rendre compte ?
Alors, les Coréens, en fait, ils se montrent très compréhensifs vis-à-vis d'un étranger qui est peu au fait des raffinements d'étiquette coréenne. Un étranger ne sera pas jugé sur sa connaissance des codes, mais simplement sur son attitude. On regarde s'il est arrogant ou si au contraire il est poli, respectueux et cherche à bien faire. En fait, les Coréens sont assez souples sur ces questions. Et au pire, une gaffe d'un étranger, eh bien, ça fera rigoler tout le monde. Moi-même, ma propre méconnaissance des bonnes manières coréennes lors de mes premiers mois ici n'a, en tout cas je crois, jamais posé problème. Tant qu'on montre qu'on respecte son interlocuteur et qu'on apprend peu à peu les règles, eh bien, tout se passe bien. Et ce qui est amusant, c'est que ces codes sont si bien intégrés qu'il devient vraiment très difficile de s'en défaire. Quand je rentre en France, par exemple, j'arrive pas à m'empêcher de tendre mon argent à deux mains à ma boulangère quand j'ai acheté mon pain. Et je ne peux pas m'empêcher de lui faire une petite courbette pour lui dire au revoir. Et à chaque fois, eh bien, elle me regarde un peu bizarrement.
Ça met une bonne ambiance dans la boulangerie. Merci beaucoup Frédéric Ojardias en direct de Séoul. Ça veut dire, Geneviève Dangenstein, que l'élégance, la gentillesse, le respect sont universels.
Mais oui, bien sûr.
Et qu'on peut les démontrer finalement un peu partout, même si on n'a pas les codes précis.
Bien sûr, c'est évident. C'est une attitude qui est élégante, et ça, je pense que ça ne va pas. Je crois que c'est universel. Ça, c'est si vous montrez que vous avez du respect à l'égard des personnes, je pense que elles ne vont jamais se formaliser.
Et on parlait du plat unique tout à l'heure, le plat, le seul plat qui est au centre de la table, qui peut être largement aussi élégant.
Mais bien sûr, la façon de même prendre la nourriture, ça, elle sera élégante ou pas. Et de même, et si on mange courbé, justement, là, on rappelle les visions de l'animalité.
Alors quand même, on revient de loin, parce que Frédéric Jardias nous parlait, par exemple, de ne pas se moucher en public, qu'on retrouve dans pas mal de cultures. Oui. En France, c'est assez toléré, hein, oui. Surtout à l'époque des rhumes. Oui. Erasme, ce théologien du XVIe siècle, alors moi j'aime bien, hein, parce que il dit dans son traité de civilité pour les enfants, « Avoir la morve au nez, c'est le fait d'un homme malpropre. On a reproché ce défaut à Socrate, le philosophe. Se moucher avec son bonnet ou avec un pan de son habit et d'un paysan, sur le bras ou sur le coude d'un marchand de salaison, il n'est pas beaucoup plus propre de se moucher dans sa main pour l'essuyer ensuite sur ses vêtements. Il est plus décent de se servir d'un mouchoir en se détournant s'il y a là quelques personnes honorables. Et si on se mouche avec deux doigts et qu'il tombe de la morve par terre, il faut poser le pied dessus. » Voilà, oui. C'était la règle au XVIe siècle.
De toute façon, il écrivait ça pour les enfants, mais en fait, c'est, les parents étaient aussi certainement visés.
Concernés, hein.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Homer nous appelle, le bien-nommé de Kinshasa en RDC. Bonjour Homer.
Bonjour.
On vous écoute, Homer. Vous êtes le bienvenu. Vous êtes en direct sur les règles de bonne conduite. Qu'avez-vous à nous apprendre?
Ah oui, moi, je voulais juste dire ce qui se passe dans mon pays et ce qui m'indigne un peu quand je vois un peu les gens se faire ça. Et les gens n'ont aucun respect pour l'âge. C'est ce qui m'indigne souvent. Et des fois, quand nous avons la difficulté dans notre pays de transport.
Ouais. Dans les bus.
Des fois, quand nous arrivons, oui, nous avons, oui, de bus. Et des fois, nous avons un bus que nous appelons communément que Trans King. Mais dans ce bus-là, il y a 24 places. Mais comme il y a la difficulté sur le transport, il arrive des fois que nous puissions entrer en l'intérieur même 35 personnes. Comme il y a seulement 24 places, on peut se retrouver qu'il y a 24 personnes qui sont assises dans des chaises. Mais ça nous arrive des fois de voir des gens qui sont debout, des gens plus âgés, par exemple des gens de 75 ans, de 70 ans, debout. Ouais. Mais on pouvait trouver dans une chaise un enfant de 16 ans, 15 ans sur la chaise.
Mais attendez, on est au Congo et le respect aux vieux, alors c'est terrifiant ce que vous racontez.
Oui, on est au Congo, mais le respect de vieux-là que nous rencontrons rarement dans nos milliers. C'est ça ce que je suis en train de dire.
Sauf qu'il peut, hein, c'est quand même assez triste. Merci Homer de nous avoir appelé. Hassan nous appelle d'Abidjan, 331 84 22 71 71. Bonjour Hassan. Comment allez-vous?
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, ça va, ça va.
C'est incroyable ce qu'on a comme politesse aujourd'hui dans cette émission. On vous écoute, Hassan.
Bon, je viens d'écouter un peu l'intervention de mon ami du Congo, mais je peux vous dire qu'ici à Abidjan, c'est complètement différent. L'exemple un peu de la nourriture en commun, lorsqu'on mange tous ensemble avec les plus âgés, en général, chez nous, c'est le plus âgé d'abord qui met la main dans le repas. Et c'est ensuite que, en quelque sorte, l'ordre est donné aux autres de commencer à manger. Maintenant, généralement, à l'intérieur du pays, dans les villages, des petits villages, tout ce qui concerne la viande n'est consommé qu'à la fin de tous les repas. Et lorsqu'on finit de manger, et c'est toujours le plus grand qui prend d'abord sa part de viande et ensuite, du plus grand au plus petit, chacun commence à prendre un morceau jusqu'à ce qu'on arrive à la fin.
Et comment ça se passe s'il y a un étranger? Alors du coup, les règles sont bousculées, l'étranger passe avant le plus âgé ou pas du tout?
Non, généralement, l'étranger passe toujours avant les natifs du village. Lorsque le repas est préparé, on enlève toujours la part de l'étranger, même si la part est plus importante que ce que tout le monde va manger. Mais l'étranger d'abord, l'étranger prime.
Eh bien, merci beaucoup, Hassan, de nous avoir appelé. On le voit bien, c'est vraiment un sujet quand même aujourd'hui qui nous intéresse tous, parce que à l'heure, enfin au XXIe siècle, à l'heure où on a un peu cette vie sans filtre avec les réseaux sociaux, etc., on se demande si on n'est pas parfois allé trop loin. Est-ce que le XXIe siècle est en train d'installer de nouvelles règles de bienséance d'une certaine manière ou pas, Philippe Pierre ?
D'abord, ce qui est très intéressant pour moi dans ces différents témoignages, c'est qu'on voit bien que la question de la politesse, de la civilité est aussi reliée à la survie du groupe. Le choix des morceaux de viande, de ce qui est rare, quand Erasme nous invite à penser comment on se mouche, eh bien, il s'agit de la santé des personnes. Il s'agit aussi, d'une certaine manière, du fait qu'elles continuent d'exister. À l'heure de la mondialisation, il y a un certain nombre de personnes qui vont être projetés, qui vont voyager, qui vont être dans différents codes. Il va falloir pour elles, et c'est passionnant, les articuler. Du coup, émergera la question du bricolage des normes de politesse. À quoi je me renvoie en moi quand je me sens un étrange étranger et que je fais face à des environnements qui appellent chez moi un code, alors que moi, je suis porteur de plusieurs codes. Et ça, c'est absolument passionnant. Et on peut penser que le digital, le numérique aussi, va avoir une influence sur les codes de politesse ou sur les rites d'interaction. Il y a aux États-Unis des enquêtes passionnantes en psychologie sociale qui nous amènent à penser que dans les jeux vidéo, quand on mange ensemble dans les jeux vidéo, on a tendance en fait à avoir une influence. On est influencé très fortement par le présentiel, le physique. Et quand on est dans les jeux vidéo en distanciel, à l'heure de la mondialisation, on va d'une certaine manière être encore influencé par ses propres règles d'espace, de rapport au temps, de gestion du repas. Mmh. Donc c'est d'une certaine manière, c'est ce temps long de l'histoire, je pense, qu'il faut avoir en tête, ce que j'ai appelé tout à l'heure les racines. Et puis la mondialisation, c'est le temps des ailes, hein, du croisement aussi des cultures et peut-être même du bricolage.
Geneviève Dangenstein, il nous reste vraiment deux minutes, mais aujourd'hui, dans le savoir-vivre français, où il y a eu tellement de traités de savoir-vivre, de livres d'ailleurs qui se vendent très très bien, dont le vôtre, mais il y a quand même beaucoup de règles qui sont devenues totalement inutiles, ou pire, qui sont inutilement méprisantes. Certains disent qu'on ne dit pas bon appétit parce que c'est déplacé, ou qu'on ne dit pas au plaisir, on se demande bien pourquoi, alors que c'est plutôt une marque de gentillesse. Est-ce qu'on va enfin réconcilier la salade et le couteau, parce qu'à l'origine, il ne fallait pas couper sa salade avec le couteau? Donc, quand est-ce qu'on sort de ces règles obséquieuses, Geneviève Dangenstein ?
Oui, pardon. L'important, c'est surtout les principes de base qui comptent. Par exemple, la vision de la femme aussi. Ne pas appeler une femme par rapport au fait qu'elle soit mariée ou pas, mademoiselle ou madame. Il y a des choses comme ça qu'il va falloir absolument, qui sont complètement obsolètes. Mais moi, je pense que, évidemment, toutes ces choses, pourquoi ne pas plier pour le couteau, en fait? Pourquoi est-ce que le couteau est aussi banni des bonnes manières? C'est parce qu'en fait, c'était à l'origine, c'était une arme. Et effectivement, donc, on essaie de faire le moins de choses possible à table parce qu'on manie une arme.
Ouais, tout à fait. De même que dans la discussion, si on s'enflamme en parlant avec son voisin, on ne brandit pas son couteau comme ça, même s'il n'y a aucun danger.
Beaucoup,
mais bon.
Beaucoup de gens, effectivement, brandissent leur couvert de cette façon. Effectivement, ils ne se rendent pas compte qu'inconsciemment, c'est quelque chose, c'est une arme qu'ils déploient en voulant parler et défendre ses idées. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est retenir l'esprit. C'est
le respect à l'autre et la sympathie et la gentillesse.
Ne pas faire perdre la face à l'autre. Voilà, ça c'est...
Merci à vous, Geneviève Dangenstein. Vous publiez... alors, il y a le club, donc, des bonnes manières, hein, les cours des bonnes manières.
Enfin, oui.
Et votre livre,
Business Étiquette Paris. Oui.
Et puis, Le savoir-vivre est un jeu, aux éditions J'ai lu. Merci à vous, Philippe Pierre, sociologue, co-directeur du Master de Management Interculturel, Université Paris-Dauphine. Dans quelques instants, on part sur les plages du Sinaï en Égypte.
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins, on est toujours à l'écoute.
Un nouveau rendez-vous mensuel avec le magazine féminin Marie-Claire, avec un reportage international chaque mois. Bonjour Adrien Gossé-Bernem.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes l'auteur d'un reportage sur les plages du Sinaï en Égypte dans le magazine Marie-Claire. On l'oublie souvent, mais dans la poudrière du Proche et du Moyen-Orient, il existe des havres de repos, même si ce sont peut-être des lieux un peu artificiels. Le Sinaï en Égypte est encore, ou de nouveau, je ne sais pas, une station balnéaire ?
C'est vrai que la côte est du Sinaï, sur la mer Rouge, plus précisément le golfe d'Aqaba, est depuis une trentaine d'années un lieu touristique assez développé, dans lequel se rendent en particulier les Égyptiens et les Israéliens. C'est assez étonnant, cet endroit où ces deux peuples qui se côtoient sans se connaître et qui nourrissent l'un vers l'autre beaucoup de fantasmes, finalement se retrouvent dans une sorte de calme et de sérénité inattendue.
Il y a une géopolitique du tourisme un peu particulière, en effet. Mais alors, à quoi ressemblent ces lieux balnéaires sur la mer Rouge, où on sait que c'est une mer très poissonneuse avec de très beaux fonds marins, mais sur les côtes, comment se côtoient les uns et les autres ?
Dans un décor simplissime, j'allais dire biblique, c'est le lieu dans la Bible de l'errance du peuple hébreu. Imaginez sur une bande côtière de 200 km des paillotes dans lesquelles vous dormez pour une poignée d'euros et la mer, les eaux chaudes et translucides de la mer Rouge. Et un peu de hashish, il faut bien le dire, il y en a beaucoup là-bas.
Ah oui.
Et le calme absolu, pas de musique tonitruante.
Ça veut dire qu'il n'y a plus ces grands hôtels, grandes capacités assez modernes depuis les séries d'attentats des années 2000
Exactement. Les Égyptiens, lorsqu'ils ont récupéré le Sinaï en 1982, qui était occupé par les Israéliens, ont des grandes ambitions touristiques. Ils ont construit la grande ville de Sharm el-Sheikh, avec des grands immeubles, et il y a eu dans les années suivantes des grands projets hôteliers qui ont périclité en plein travaux à cause des vagues d'attentats, donc dont il reste ici et là des espèces de silhouettes fantomatiques.
Alors ça donne quelle ambiance finalement et quelle rencontre vous avez fait improbable sur ces terres finalement relativement, je veux dire, où on se côtoie assez facilement entre Israéliens et Égyptiens, mais quel type de touristes viennent, quel type de milieu ?
Ce sont des gens qui, je pense, des deux côtés, qui vivent chez les Israéliens comme chez les Égyptiens, qui vivent dans des situations compliquées. Et qui viennent vraiment chercher cet endroit, un endroit où échapper à tout ce quotidien tendu et guerrier. Alors vous trouvez des gens, vous avez à la fois des gens de la classe moyenne du Caire, qui fuient l'enfer urbain du Caire, il faut imaginer ce que c'est que le Caire, des embouteillages monstres, et à la fois des Israéliens lambda, dont des juifs religieux qui sont en vacances, en villégiature, avec toute la tiraille de la nourriture cachère. C'est étonnant, et vous avez aussi, si vous élargissez le champ de vision, vous avez les barrages militaires, parce que les autorités israéliennes, égyptiennes, craignent les attentats islamistes. Il ne faut pas oublier que Daesh, l'État islamiste, a son dernier bastion dans le nord du Sinaï, où il est combattu par l'armée égyptienne.
Combien de kilomètres là, de ces campements de plage ?
À une heure de route, débute la zone interdite, le nord Sinaï, où l'armée égyptienne mène une lutte assez sanglante face à Daesh.
Des rencontres qui vous ont marqué lors de votre reportage, Adrien Gossin-Bernheim ?
J'ai rencontré évidemment beaucoup de gens. J'ai pris un peu par hasard un taxi avec trois jeunes touristes israéliennes, des jeunes filles religieuses qui habitent des colonies de Cisjordanie et qui étaient dans ce taxi tout à fait délurées et chantant à tue-tête. Discutant avec le chauffeur de taxi, lui-même bédouin, mais qui parlait parfaitement hébreu. C'est assez étonnant.
Et qui partait se reposer sur les plages égyptiennes.
Exactement, exactement.
Ouais. Ouais, le monde n'est pas si simple, en effet. Adrien Gossin-Bernheim, merci à vous. Reportage à lire et à découvrir en images dans le numéro de janvier qui est déjà en vente du magazine Marie-Claire. Merci d'avoir été en ligne avec nous.
Merci, Manuel. Au revoir.
Le mois prochain, on découvrira le reportage en Louisiane du magazine Marie-Claire sur une île ensevelie par les eaux qui cause les premiers réfugiés climatiques aux États-Unis pour ceux qui pourraient douter du réchauffement climatique. Merci aussi à toute l'équipe qui prépare cette émission chaque jour. Sigrid Azeroual, Delphine Dodianous. Non, aujourd'hui, c'était j'ai un trou de mémoire. Merci à Arthur Tossou, Romain Dubrac évidemment à la réalisation. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique magazine. et nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera éducation comme chaque vendredi. Comment enseigner et faire aimer les mathématiques. Avis à tous les traumatisés des maths, vous aurez enfin la parole. 33 1 84